Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
On s'en tire quand même bien aujourd'hui. On nous parlait d'une journée nuageuse. Puis là, ben, je vois des alternances de soleil-nuage. Fait qu'on va en profiter puisque demain, ben là, ce sera le grand retour du soleil. Maximum de 14 pour ce qui est de demain. Un minimum de 6 en soirée. Pour ce qui est de jeudi, ben là, ce serait de la pluie. Maximum de 13. Et vendredi, alternance de soleil-nuage. Maximum de 13 degrés. Dame Nature joue avec nos nerfs.
Et voilà.
Nathan Meilleur qui est en studio. Salut mon ami.
Salut.
Ça va?
Ça va très bien, vous?
Oui, ça va bien. T'es-tu tanné de parler de cancer, toi?
Non.
Non, parce que non. Je vais t'avouer que j'ai hésité avant de dire « Hey, on va reparler de ce sujet-là » parce que je me dis « Criff, à un moment donné, il doit vouloir passer à autre chose. »
Oui, c'est une bonne question ça, je m'étais pas préparé. J'aimerais ça à l'avenir que ton recherchiste me contacte
ouais, c'est
avant,
ça.
S'il te plaît.
Peu importe ce que tu vas me dire, la porte est barrée, fait, tu peux plus te sauver. On est ensemble 20 minutes à peu près.
Ok. Mais je pense qu'on choisit nos moments. Il y a des journées qui sont plus tough que d'autres, évidemment. Il y a des journées où est-ce que je me pose encore la question de pourquoi moi. Tu sais, je pense que ça va être une question que je vais me poser encore longtemps. Le temps fait bien les choses aussi, mais en même temps, je pense que quand on a une tribune, quand on travaille dans le monde des communications, on a deux choix qui sont clairs, c'est limpide. Soit on garde ça pour nous, puis on décide que c'est notre vie privée, ou soit on partage avec les gens qui nous font une place dans leur quotidien.
Les deux sont corrects.
Les deux sont corrects. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais les deux sont corrects. Mais je pense que d'avoir l'opportunité d'avoir un micro, de pouvoir le partager avec des gens... pour moi, ça a été important. Je l'ai fait dès le départ. Puis là, après ça, est venu le projet du podcast où j'ai eu la chance de parler avec un paquet de spécialistes.
Excellent podcast
de cette
situation-là.
Ben, merci beaucoup. C'est très gentil. Mais tu sais, j'avais... Écoute, on se fera pas de cachette que des fois, j'avais un méchant payroll autour de ce table-là.
Tu te sentais du pauvre.
Hey, j'avais 3-4 spécialistes qui... Puis tu sais, bref, c'est ça. C'était important pour moi d'en parler parce que souvent, on sait pas ce qui nous attend. On n'est pas éduqué par rapport à ça, le cancer. Fait que c'est un gros mot qui fait très, très peur. Puis on apprend comment fonctionne la machine de la cancérologie quand on est pris dedans, quand on arrive dedans.
Moi, ça m'a beaucoup servi d'avoir ce genre de porte-étendard des situations un peu plus plates quand j'ai commencé à perdre du monde autour de moi du cancer parce que je comprenais pas, c'était pas limpide. Puis dans notre famille, on a tendance à rien dire. Puis on a tendance à dire on a mal au ventre, tu comprends, puis de cacher ça aux autres pour pas stresser les gens. Fait que quand il y a du monde comme toi qui existe, puis comme du monde, comme la personne avec qui on va parler, je trouve que ça ouvre des portes, puis ça nous fait un peu comprendre ce que vous pouvez vivre dans ces situations-là.
La raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, Nathan, puis la raison pour laquelle on va parler avec la merveilleuse personne dans les prochaines secondes, c'est que les spécialistes ont constaté une hausse alarmante des cas de cancer du sein chez les jeunes femmes. Et on parle de hausse, là, pas de 10 % qui serait très alarmant, on parle de hausse de 45 % pour les femmes dans la vingtaine et de presque 13 % pour les femmes qui sont dans la trentaine. Puis pour ce qui est des femmes dans la quarantaine, un autre près de 10 % aussi, on est à 9 précisément. C'est très inquiétant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on connaît la source de tout ça?
On connaît pas la source de tout ça. Puis pour avoir jasé justement avec plusieurs spécialistes pendant le podcast, je l'ai posé la question, moi. J'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes autour de moi qui reçoivent des diagnostics de cancer. Cancer du sein beaucoup, cancer colorectal, des lymphomes, des sarcomes, des carcinomes. Bref, il y en a un paquet. Puis ce que les médecins m'ont dit en général, c'est qu'il n'y a pas nécessairement plus de jeunes. Par contre, est-ce qu'on le diagnostique mieux qu'avant? Est-ce qu'on le diagnostique plus rapidement qu'avant? Peut-être que c'est ce qui donne l'impression que les statistiques augmentent. Mais grosso modo, eux autres me disaient, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation jusqu'à ce que cet article-là sorte.
C'est un peu flou pour les spécialistes. C'est ça qui est particulier pour nous. Puis quand on lit l'article, on se rend compte qu'il y a une docteure qui dit, ben ça pourrait, tu sais, on est dans le peut-être, avoir une corrélation avec des changements de mode de vie ou du début plus hâtif des menstruations chez les jeunes filles ou encore ben, la corrélation qui est souvent amenée, soit consommation d'alcool en particulier chez les jeunes filles, ce qu'on voyait peut-être moins auparavant. Mais c'est encore des spéculations.
Toi, j'ai l'impression que des années 80-90, on buvait plus.
Peut-être les hommes, c'est
ça
qu'on
les produits, est-ce qu'ils étaient moins transformés aussi dans les années 80-90?
Le stress de la pandémie.
Maintenant, c'est une bonne chose qu'on en parle davantage du stress puis de la santé mentale aussi, mais mais à l'époque, on en parlait moins, on gardait ça plus pour soi. Même principe, est-ce qu'il y avait moins de stress dans les années 80 ou c'est juste qu'on en parlait moins? C'est toutes des questions qu'on est en train de se poser actuellement. Puis clairement, dans le mode de vie, il y a quelque chose qui joue. Parce que du cancer de la prostate, si vous allez en Moyen-Orient, là, il n'y en a pratiquement pas là-bas. Fait que c'est quoi? C'est dans leur style de vie, c'est dans leur consommation de nourriture où c'est différent de nous. Alors que les hommes, le cancer de la prostate, évidemment, est cancer numéro un, puis cancer du sein numéro un chez la femme, puis là encore plus chez la jeune femme aussi.
Puis le dépistage, honnêtement, là on parle de vingtaine, trentaine. Moi, je n'ai pas entendu parler. Moi, on me disait, c'est pas, oh, Pascal, t'as pas besoin de ça. J'avais le dépistage annuel qui est manuel par ma médecin de famille. Puis la fois où je suis allée le faire, là, le vrai exercice, c'est parce que j'étais porte-parole pour une clinique qui le faisait. Mm-hmm. Je voulais vivre ce que les femmes, tu sais, allaient vivre quand ils allaient le faire. Mais jamais on me disait, hey, toi, dans vingtaine, vas-y. Ça peut-tu avoir, tu sais, un lien avec le fait que certaines ont décidé d'y aller? On a vu. C'est fou, ça.
Oui.
Mais certaines femmes qui sont pas assez allées.
Le cancer de la prostate, c'est un bon exemple de ça. T'sais, les premiers examens chez les hommes étaient suggérés à partir de 50 ans. On a descendu ça à 40 ans. Il n'y a pas si longtemps encore. Fait qu'on n'est pas allé à 45. Là.
Ouais.
On a descendu ça de 10 ans. À partir de 40 ans, on commence à vérifier au niveau du cancer de la prostate. Fait que oui, le dépistage a joué énormément. Là.
Présente-nous ton invité. C'est la merveilleuse. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Puis je connais un peu son histoire. C'est une femme d'affaires exceptionnelle. Mm. C'est une fille qui a grandi dans le secteur de Limoilou de mémoire.
Oui.
Oui. Et qui en a vu des vertes et des pommures dans son adolescence. Puis par la suite, elle a fait son secondaire. Elle est allée au Collège Radio-Télévision de Québec. Elle a travaillé de mémoire un petit peu dans les médias. Puis par la suite, début de son entreprise. Puis aujourd'hui, ben, on a l'occasion d'y parler.
Je pense que vous l'avez reconnu. Probablement que vous l'avez reconnu avec cette présentation-là. C'est Geneviève Évrel qui a accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Salut Geneviève.
Allô.
Comment ça va, la merveilleuse?
Ben là, j'avais tellement envie d'être physiquement autour de cette table ronde de discussion de cancer. Ouais. Ma foi, très intéressante. Depuis tantôt, je veux parler. Mais je pouvais pas.
Là, tu as la parole. Raconte-moi un peu ton histoire des derniers mois, parce que pour les gens qui sont pas au courant, c'est hallucinant tout ce qui s'est passé dans ta vie.
Ben déjà que ma vie était vraiment très... tu sais, il s'en passe des choses, là. J'avais pas besoin nécessairement de ce nouveau défi. Écoute, c'est à 34 semaines de grossesse que j'ai appris que j'étais atteinte du cancer du sein. Puis, après, ma barre était juste une petite bosse dans mon sein. Puis je me disais, ben c'est sûr que ça a rapport avec la grossesse, probablement des glandes, du lait, un petit kyste, là, genre de tuyau coincé, genre de en rapport avec la grossesse, jamais ou presque pas, ça m'a effleuré l'esprit qu'on puisse me diagnostiquer un cancer du sein. Donc, c'est à quelques jours avant d'aller rencontrer ma médecin de famille qui faisait mon suivi de grossesse, bref, que j'ai comme tâté une masse assez importante, puis c'est rendu dans le bureau de ma docteure qui faisait mon suivi de grossesse. Puis à la toute fin, je fais « Ah oui, c'est vrai, je voulais te dire quelque chose, tu sais, genre tellement que ça me stressait pas. » Puis finalement, c'est fascinant à quel point on peut difficilement masquer ses mimiques quand on touche à une masse qui est dangereuse, finalement, parce que elle a complètement changé de visage, puis je savais que c'était pas normal. Puis ensuite, c'est enclenché maintes et maintes rendez-vous, parce que quand t'es enceinte, tu peux pas te faire de mammographie. Donc, ça a été échographie du sein, ensuite biopsie, et c'est un vendredi soir d'hiver que j'ai appris la nouvelle en direct de mon salon au téléphone. Généralement, ça se passe dans le bureau d'un oncologue qui va vraiment prendre le soin de t'annoncer ce diagnostic, mais j'ai eu la chance, entre parenthèses, qu'on m'appelle privé, parce que dans le fond, c'était ma doc qui me suivait en grossesse, qui avait pu lire l'échographie qu'elle m'avait envoyée faire suite donc à l'examen qu'elle m'a fait, examen auto-examen. Puis elle a pris le temps de m'expliquer ce qu'elle a vu sur l'échographie, puis ça sentait pas bon, et elle avait raison.
Ouais.
Donc,
tu vivais un grand bonheur, Geneviève. Bon, t'étais en amour,
ouais.
Tout le monde autour de toi était en santé, il y avait un nouvel arrivant qui s'en venait, tout allait bien, tes entreprises allaient bien aussi, puis pouf, le cancer qui arrive. Est-ce que c'est ton monde qui s'écroule à ce moment-là? Parce que tu es une femme extrêmement forte. Moi, j'ai entendu plusieurs de tes podcasts, j'ai entendu ton histoire régulièrement. On parlait de toi il y a de ça quelques années au collège avec, avec Christian puis, puis Alain. Tu sais, tu es une femme extrêmement forte, mais là, tu as plein de bonheur autour de toi. Personne qui mérite d'avoir un cancer dans la vie. Puis là, tout est heureux, puis pouf, boum, un gros combat qui s'en vient dans ta vie. Un autre, Geneviève.
Ben oui, puis tu sais, bon, évidemment que tu sais, on peut dire, on envoie des défis à ceux qui peuvent les relever, là, tu sais. Puis c'est bien le fun, là. Puis oui, effectivement, je vais relever encore cet autre défi. Mais c'est sûr que, tu sais, honnêtement, tantôt, je scrollais mes photos Instagram, puis dans mon cell, puis je me rappelle pratiquement plus de la fin de ma grossesse, tellement que j'étais obnubilée par le diagnostic de la maladie. Fait que c'était de conjuguer la vie avec la potentielle mort, on veut pas, parce que quand on entend le mot cancer, puis qu'on n'est pas encore dans la machine, puis qu'on comprend pas encore les termes tout médicaux dans lesquels on va finalement être transporté assez rapidement, merci, ben là, tu pleures toutes les larmes de ton corps, évidemment, parce que tu te demandes, est-ce que mon bébé est en danger? C'est quoi les prochaines étapes, tu sais? Puis moi, je suis pas quelqu'un qui reste dans son malheur ou dans son émotion, tu sais. Fait que je suis plus du genre à faire, OK, là, je vais brailler une shot, puis je vais faire comme, OK, maintenant, on fait quoi, tu sais? Puis c'est vraiment ça qui définit beaucoup ma personnalité, puis c'est ce qui m'aide beaucoup. C'est de pas rester dans quelque chose. Puis quand j'ai eu ma césarienne, donc on m'a comme planifié une césarienne plus tôt pour commencer la chimio plus tôt, parce que j'avais besoin de chimio. Il y a certains stades qui en ont pas besoin, mais moi, c'est un stade 3 avec un cancer assez agressif qui est un cancer de mutation génétique. C'est drôle, vous en parliez un peu tantôt par rapport aux règles qu'on a tôt. Moi, j'ai été dans mes règles à 9 ans. Ça peut avoir une corrélation. Fait que, il y a plein de choses qui commencent à s'expliquer tranquillement. J'étais en génétique pas plus tôt que ce matin au CHUM, justement pour ça. Puis, ben c'est ça. Donc, césarienne, il y a eu et... 4 jours après, j'étais dans un IRM avec une cicatrice de césarienne pas tout à fait guérie quasiment, là, tu sais, donc ben quelques semaines en fait, là, mais vraiment rapidement, j'ai dû faire des tests. C'était assez challengeant. Mais là, vois-tu, puis comme dirait Nathan, je pense que on peut chialer contre notre système de santé quand on a un bobo X, mais je veux dire que quand on a le cancer, on est vraiment pris en charge. Puis ben là, j'étais à mon 3e traitement de chimio demain. Puis ma masse a fondu à 80% déjà.
Wow! Ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Puis là, tu parlais de ton 3e traitement de chimiothérapie. Puis le plan est différent pour chaque personne, tout dépendamment du type de cancer. Il y a un point de vue génétique de ton côté. Puis tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que je pense que tu es ce genre de personnalité-là aussi, Geneviève, mais... Il y a quelque chose qui devient intéressant là-dedans. Il y a quelque chose qui devient fascinant. Tant qu'à être pogné avec cette cochonnerie-là, il y a un moment où moi, ça a comme... Autant j'avais la tête dans le sable, autant ça a viré de bord. Puis là, je posais des questions, puis je voulais comprendre. Puis comment ça fonctionne, puis pourquoi. Puis c'est quoi cette mutation de gène-là?
T'as eu un déclic flagrant?
J'ai vraiment eu un déclic. Puis c'est ça qui a amené au podcast aussi. Mais j'ai comme l'impression, peut-être que je me trompe, mais que t'es ce genre de personne-là qui doit poser beaucoup de questions aux spécialistes que tu rencontres pour être en mesure justement de partager beaucoup avec ton cher journal comme tu fais sur tes réseaux sociaux avec tes abonnés qui te suivent aussi, hein?
Bien, c'est comme de rendre ça utile. Bien, pas utile, mais c'est comme de mettre un sens. Je pense que tu as été comme moi là-dedans, c'est qu'on se demande... Bien, moi, je me suis pas demandé pourquoi moi, parce que on dirait que c'est trop une question. C'est un peu comme jusqu'où va l'univers, là. Tu sais, pour moi, ça me fait mal dans le milieu du front. Fait que j'aime mieux pas penser à ça, puis juste faire, OK, je l'ai, je pourrais rien changer, mis à part m'instruire, informer, partager, éduquer, tu sais, puis je deviens pas demain matin la porte-parole du cancer du sein, mais somme toute, moi, dans mon langage, dans mon jargon, j'apprends des choses, j'apprends des termes, j'apprends des façons de faire, j'apprends une espèce de un univers complet de choses puis de termes que je connaissais pas. Fait que je me dis, regarde, j'ai une belle tribune, je vais clairement pas vivre ça tout seul. Puis si ça peut faire du bien, ne serait-ce qu'à une femme qui vit, à une demoiselle que sa sœur, que sa mère, que sa grand-mère le vit, parce que malheureusement, c'est une femme sur 8, là, c'est qui va avoir un diagnostic de cancer. Même, je pense, c'est une femme sur 5. Donc, faut vraiment que je fasse, genre, œuvre utile avec ça. Puis, vous serez pas surpris qu'on est en train de faire un documentaire d'ailleurs, qui va être sur une plateforme très, très connue, parce que j'ai besoin de le vivre avec quelqu'un, puis j'ai besoin que ça serve. Donc,
est-ce que les gens t'écrivent, Geneviève? Est-ce que tu en as eu plein de commentaires?
Oui, bien, suite au Cher Journal, comme vous l'avez dit, il n'y a pas un Cher Journal que je fais où je dois prévoir du temps pour répondre. Tu sais, mettons que je mets une story des sushis, de mon quotidien. Oui, j'ai de l'interaction, tu sais, j'ai une belle communauté super présente, mais quand je fais un Cher Journal, peu importe le sujet, qu'il soit médical, esthétique, d'état d'âme, il faut que je prévoie presque 2-3 heures pour répondre à toutes les gens. Puis j'y tiens, puis j'essaye. Parce que ça crée beaucoup d'appartenance, puis j'ai une communauté incroyable qui me suit, qui ça me fait faire plein d'échanges magnifiques, des belles rencontres, des beaux témoignages, puis ça m'alimente vraiment bien, tu sais.
Ouais. Puis moi j'entends énormément de positivisme de ta part, puis t'as gardé ton sens de l'humour. Écoute, je pense que là 3-4 jours tu m'as fait tout perdre là, sur Facebook, j'ai éclaté de rire. T'as mis un mime de toi où on voit clairement que t'as dû te couper les cheveux. Il te reste quelques cheveux, je te dirais semi-longs, mettons, un genre de 2-3 cm. Mm-hmm. Là. Et sur ce mime, c'est écrit « Quand ton chum te dit que t'as de l'air d'un suçon qui est tombé à terre.
» Ben, pour vrai, là...
C'est formidable.
Ma santé mentale,
ben oui.
Ben, il faut que... Ouais. C'est ma façon. Puis j'ai toujours été comme ça, tu sais, pour dédramatiser. Même dans... Tu sais, quand on parle de mon histoire, mon parcours... J'ai des moelleux, en tout cas, bref, tout ça, cette histoire-là. Déjà ça, mettons, cette histoire-là en conférence, je faisais beaucoup, beaucoup de blagues. Puis, tu sais, l'humour un peu jaune, mais tu sais, à un moment donné, faut transformer ça, sinon on ne survit pas, tu sais. Fait que je me rends compte que je reste la personne que je suis, même avec ce pronostic-là, parce que pour vrai, moi, j'ai les cheveux rasés, je veux dire, je pensais jamais de ma vie, tu sais. Ouais. Je me vois dans le miroir, puis je saisis pas tout à fait ce que je vois, tu sais, mon chum est déjà habitué, parce qu'il me voit tout le temps, mais tu sais, on fait des blagues, mon chum est humoriste, fait que c'est sûr que je passe au cash, mais ça me fait tellement plaisir de, pas d'en rire, mais de dédramatiser, tu sais, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Oui, je comprends tout ça. Hey, je veux te poser une dernière question, puis c'est une question qui est très délicate, parce que veux pas, quand on entend parler de ton histoire, on n'a pas le choix de se dire tabarouette, et moi, comment je pourrais réagir de ce genre de situation-là? Comment on explique ça aux enfants, que maman est un peu malade, puis des fois, elle a besoin de se reposer?
Hey, ça s'est super bien passé. Ben, ouais. J'ai un fils qui est... Il y a une vieille âme, il est comme les vieux. Tu sais, genre, il est vraiment sensible, très empathique, très doux. Puis pour moi, ça a été comme... Honnêtement, là, je suis allée chercher à l'école un soir où j'avais vraiment comme... Je me sentais prête à lui dire quand même rapidement, honnêtement, parce que je peux pas garder ça pour moi, tu sais. Puis on a une belle proximité, tu sais, il y a 7 ans et demi, puis il est super mature. Donc, on est à littéralement une lumière rouge. Puis ce qui m'a aidée dans cette circonstance-là, malheureusement et heureusement, c'est que la maman d'un de ses amis avait eu un cancer tout au long de l'année dernière. Parce que ça, on calcule un gros tour d'horloge là, pour la chimio, le processus, la perte de cheveux, tout ça. T'sais. Mais on l'avait côtoyé beaucoup, la maman de Elliot. Donc, à la lumière rouge, en s'en allant au retour à la maison, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, mon amour, j'ai dit, c'est la maman d'Eliott, elle avait un bobo dans le sein, je te l'ai expliqué déjà. Il dit oui. Il dit, elle va mieux maintenant. J'étais comme, oui, justement, ben maman, elle a le même bobo. Mmh. Donc, je vais vivre un peu ce que Kim a vécu cette année. Puis, on va se guérir. Je vais me guérir moi aussi, tu sais. Ah, il dit, tu vas guérir vite de toute façon. Puis, il dit, la maman d'Eliott, elle va super bien. Mmh. Fait que, tu sais, pour lui, c'était comme, ah, OK, tu sais, on le fait, on se guérit, puis après ça, ben on court partout, tu sais.
Mais c'est la raison numéro un aussi pourquoi on subit ces traitements-là. Puis, tu sais, il ne veut pas la chimiothérapie, c'est ça. Ça reste que c'est du poison, mais qui nous aide à survivre. Mm-hmm. Ouais. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, mon ami, est-ce que tu dis encore merci la vie?
Ah, tellement. Puis, tu sais, j'ai ce bel adage tatoué sur le chest. Fait que, honnêtement, c'est autant qu'on peut véhiculer cette phrase-là, genre, ah, merci la vie, tu sais, avec un peu de blague, si on veut, dans le thème de voix. Mais oui, parce que j'imagine que je vais apprendre de ça. Je fais déjà, tu sais, je me rends compte que déjà, je m'implique déjà, j'ai envie d'instruire, d'éduquer, de grandir à cause de cette situation-là. Puis je te dirais pas ça dans 4 jours, pas chimio, quand je vais être couchée dans mon lit incapable de me lever. Je te dirais, là, vous êtes bon, vous êtes bien tombé. Mais quand on remonte de la chimio puis qu'on se rend compte que la masse descend, que ça revient, que les cheveux vont repousser, puis que le taux de guérison du cancer du sein quand même immensément bon, là, tu sais, on se le cachera pas, là, sans dire que c'est le bon cancer à avoir, là, parce que il y en a pas un qui est bon, là, si tu veux pas ça. Mais somme toute, tu sais, ça se passe bien, je sens ma masse fondre littéralement dans mon sein à tous les jours de ma vie, donc ça me garde en vie, rien de moins. Donc, c'est ça. Puis quand je vois mon petit garçon grandir, ma fille qui change à toutes les secondes, ben, je veux dire, je vais être là, puis je vais être là, tu sais.
Mais ça, c'est fascinant, un discours comme ça. On avait déjà une conversation, Nathan, moi, puis un humoriste qui était invité ici, puis qui avait eu des pensées noires, puis une vie plutôt difficile. Puis les deux gars, je leur avais posé la question, « C'est-tu vrai que quand il t'arrive quelque chose comme ça, que tu as une perspective de mort sur ton chemin, c'est terminé, tu ne vois plus la vie de la même manière? Est-ce qu'il faut vraiment attendre ça? Puis est-ce que c'est ça aussi pour toi, Geneviève? »
Bien, c'est drôle parce que je suis comme partagée entre les deux, parce que autant que... Il y a bien des situations dans lesquelles je me retrouve récemment où je suis comme, tu sais, genre, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis pas avec mes enfants? Ou tu sais, je commence à voir un peu les choses d'une perspective différente, mais tranquillement. Puis parallèlement, ben, je suis tellement dans l'action que des fois, je suis comme, hey, c'est vrai, je suis malade. Tu sais, je suis comme entre les deux parce qu'il y a un côté de moi qui est tellement, tu sais, entrepreneur dans l'âme. Puis il y a un côté de moi qui est malade, maman, à la maison, je suis avec mon amoureux, mes enfants à temps plein. J'aurais jamais vécu ça, pas malade. C'est moi qui retournais travailler. Mon chum était papa à la maison. Fait qu'il y a comme une dualité entre la fille de projet qui veut comme, hey, on met du sens à tout ça. Puis il y a le côté femme, maman, amoureuse qui est comme, hey, je serais retournée travailler. J'aurais pas passé autant de temps que ça à la maison à voir ma fille grandir. Fait qu'on dirait que j'ai même eu le goût de dire merci. Je sais pas si je suis rendue là. Mais on dirait que je suis comme, j'essaie vraiment de trouver un sens à tout ça, puis je le trouve déjà, tu sais.
Geneviève Evrel, on t'envoie plein d'amour.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, salut Geneviève.
Merci à Nathan d'avoir créé le contact, toi aussi.
Bye
merci
bye.
Geneviève. L'excellente Geneviève Evrel, qui est propriétaire de Sushi à la maison. Quelle histoire. Pourquoi on lui parlait, c'est qu'on constate qu'il y a une hausse assez alarmante des cas de cancer du sein chez les jeunes femmes. Les chiffres, ça fait vraiment peur. C'est pratiquement 45 % pour les femmes dans la vingtaine, l'augmentation. Presque 13 % pour les femmes dans la trentaine et presque 10 % pour les femmes dans la quarantaine. Comment on s'explique ça? Ben, toutes les hypothèses sont valables.
Ouais.
Moi, si vous voulez savoir mon expérience personnelle avec les différentes conjointes que j'ai eues, bien souvent, les filles se posaient des questions. « Ah, regarde, j'ai une petite bosse ici. » Puis trop souvent, ils me disaient aussi « Ah, mais tu sais, ça me tente pas d'aller chez le médecin et d'apprendre une mauvaise nouvelle. » Puis heureusement, à chaque fois, c'était juste un ganglion qui était enflé. Je connais pas spécifiquement l'endroit où tout s'est posé. Mm-hmm. Mais à chaque fois, c'était un ganglion qui gonflait puis qui dégonflait. Mais prenez pas de chance.
C'est le meilleur conseil à donner. C'est dans la prévention, on s'est beaucoup amélioré. On parle de ça depuis tantôt, en fait, là, du fait qu'il y a de plus en plus de diagnostics. Mais est-ce que c'est parce que les gens, justement, sont plus renseignés, sont mieux éduqués? Les gens attendent moins longtemps? Puis, tu sais, Geneviève en parlait, c'est un cancer du sein agressif. C'est des mots qui font peur. Un stade 3 aussi, c'est quelque chose qui fait peur. Puis, tu sais, moi, je me souviens que c'est ça que j'avais eu aussi. Tu sais, j'étais stade 4. Je me suis dit, mais c'est fini, c'est terminé, stade 4. C'est tout le monde qui se fait annoncer qu'il y a un cancer stade 4. C'est je vais aller sur Internet me magasiner un cercueil ou une urne, là, ça ne sert à rien. Mais c'est pas ça. Tu sais, dans le langage aussi, dans le vocabulaire, un cancer qui est agressif, c'est qu'il va prendre la place rapidement dans le corps. Donc, il faut agir rapidement. Mm-hmm. Un cancer de stade 3, s'il n'est pas métastasique, c'est juste parce qu'il est réparti à tel endroit dans le corps aussi. Fait que ces mots-là, ce vocabulaire, voyons, là, qui fait peur, empêche les gens d'aller chercher des diagnostics. On a eu un triste exemple avec une commentatrice météo à TVA il y a quelques années qui s'appelle Nadège, qui avait un cancer colorectal, ça lui faisait peur. Puis quand finalement elle est allée à l'hôpital, ben il était trop tard.
Ouais, c'est ça.
Malheureusement.
C'est le parallèle avec les filles que j'avais rencontrées qui me disaient « Ah, ça me tente pas d'aller chez le médecin avec ça, là. Ça me fait assez peur qu'il m'annonce quelque chose. » Oui, mais plus tôt tu iras mieux que tu pourras guérir par la suite si jamais il y a quelque chose.
Puis même... être alerte par rapport à son corps.
C'est...
Sérieusement, on oublie. Là. Puis tu sais, je vais faire rire, je pense, mais on touche bien plus les autres qu'on se touche.
Oui.
Ah, pas moi. Oui.
Je savais que j'ouvrais une grande porte pour Yannick.
Parle pour toi, mère.
Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui.
Alors, tu sais, puis on remarque plus les autres, qu'on se scrute dans le miroir, on est plus alerte à... Toi, non? Toi, c'est ça. Ah, beau.
Il y en a qui c'est un lundi, comme il dit.
Mon gym a fait. Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui.
Puis, j'allais pas dans l'angle sexuel, mais pareil, on est plus alerte au corps des autres, on dirait, aux réactions des autres. Mais c'est peut-être moi aussi.
Non. Ça faisait 6 mois que notre collègue Sylvie Goulet me disait, « Nate, t'es vert. Il y a de quoi qui marche pas, t'es vert. T'es fatigué, il y a de quoi. » Puis là, j'étais, ah, les gars, la garderie, il y a un virus, de quoi qui... Puis au début, c'est ça que les médecins me disaient. Probablement que vous avez la COVID longue. Là, j'ai pas la COVID. J'ai pas eu la COVID. Puis je le sais si j'avais eu la COVID parce que ma blonde travaille dans un hôpital, était dépistée PCR aux 2 jours. C'était comme ça que ça fonctionnait. Fait que si la COVID est rentrée chez nous, je peux-tu te garantir que je le sais? C'est sûr que c'est ça. Puis finalement, moi, je me suis rendu loin dans le processus parce que c'est d'autres symptômes qui se sont accumulés. C'était pas un test physique. Moi, j'avais pas de douleur, mais j'avais énormément de fatigue. Puis là, un moment donné, je me suis mis à faire de la température. Mm. Puis là, ça s'arrêtait pas.
Mais tu penses juste que tu vas pas bien.
Puis là, je pensais que c'était un
virus.
Les gars,
vous êtes bons là-dedans.
Puis, tu sais, j'attendais. Puis autant, j'étais un gars qui fait limite de l'hypochondrie, là. Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être ça alors que je faisais des soirs nocturnes. Je me réveillais au milieu de la nuit pour mettre un drap de bain dans mon lit parce que c'était trempe à la vette. Puis même moi, j'ai attendu. Puis finalement, c'est un médecin qui m'a sauvé la vie dans une urgence qui lui m'a dit, « C'est bizarre, je regarde ton dossier, t'es venu pas mal souvent. » Dans le dernier mois, ça fait comme 4 fois que tu viens, là, on t'a donné des antibiotiques pour une sinusite, c'est pas ça, pour une pneumo, c'est pas ça non plus. Il dit, on va faire un bilan sanguin. Puis c'est lui qui m'a sauvé la vie, c'est ce médecin-là qui m'a sauvé la vie parce que lui, il revenait avec le bilan sanguin puis il m'a dit, je te transfère en infectiologie. Puis une semaine plus tard, elle me disait, c'est pas dans ma cour, mais là, tu t'en vas en hémato-oncologie parce qu'il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Fait que si ce médecin-là avait pas été alerte... Ouais. Moi, je ne sais pas où je me serais rendu dans le processus avant d'avoir le diagnostic, effectivement. Ouais. Puis même des cancers métastasiques, tu sais, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais écoutez-le, le podcast. Cancer métastasique, c'est sûr que c'est on est en soins palliatifs à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la mort demain matin. Il y a des volcans à l'intérieur du corps qu'on est capable d'endormir maintenant pour... Combien d'années, ça peut être étonnant de voir ça aller aussi, fait que oui.
Ouais. Puis dans l'article, on parle de la hausse de cancer du sein, puis on disait qu'il y en avait de plus en plus, presque 45%. Je pense que je peux le dire, là, si vous suivez la journaliste Marie-Christine Leblanc, qui faisait le culturel, mais qui faisait aussi la météo à TVA Québec, ben, elle vient d'annoncer qu'elle a le cancer du sein. Mm.
C'est partout qu'on apprend des mauvaises nouvelles là, récemment. Tu as raison, ça fait une heure qu'elle l'a annoncé.
Marie-Christine a été une des premières qui est entrée en contact avec moi parce que dans le cadre de son émission, justement, elle m'avait contacté et elle m'avait dit « Moi, j'aimerais ça faire un topo avec toi. Ça te tente-tu? » Puis oui, on l'avait fait. Puis je me souviens d'être assis à la table du café Sobam sur la 3e avenue. Puis elle me dit « Je sais pas comment tu fais pour encaisser cette nouvelle-là. » Puis je me souviens de lui avoir dit « Comme Geneviève, elle nous a dit tantôt, quand ça t'arrive, t'as deux options. Là. Soit tu t'écroules à terre ou tu y fais face parce que t'as des enfants, parce que t'as une vie de famille, parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, puis tu sais, de voir que là, elle est dans cette situation-là, ça m'étonne à tous les jours de voir à quel point il y en a des jeunes autour de nous qui ont ce diagnostic-là. Ça fait partie d'une nouvelle réalité.
Son message est vraiment touchant. Ça va avec ce que tu es en train de dire. J'ai l'impression que, tu sais, des fois, la vie te fait vivre une conversation avant que tu vives autre chose, puis que finalement, ça a peut-être joué dans ta tête, mais elle écrit, tu sais, j'ai pas vraiment de façon de l'annoncer. Je veux plus l'annoncer au compte-gouttes. Mm-hmm. Donc, je vais faire un message ici, mais j'ai cherché mes mots vraiment longtemps. J'ai pas vraiment la possibilité d'atténuer la peine. Ça aurait peut-être été ça, les mots que j'aurais aimé choisir, mm-hmm. ceux qui vont apaiser cette peine-là, ceux qui pourraient apaiser l'angoisse. Mais elle dit, je sais pas comment le dire autrement, mm-hmm. j'ai le cancer du sein. Mm-hmm. Elle dit, c'est le brouillard dans ma tête, puis elle y va avec une longue publication.
Donc, on lui envoie de l'amour à elle aussi. Oui, si vous l'avez croisé, dites-lui à quel point vous l'aimez, bien entendu. Nathan Meilleur, je te remercie tout le temps.
Hey, merci
je
à vous.
Je le fais encore, merci.
Yes, merci pour cette tribune-là, parce que c'est important d'en parler. Merci beaucoup de prendre le temps, les amis.
Taponnez-vous, c'est
le
fun.
Taponnez-vous.
Et voilà. Vérifiez s'il y a des affaires qui sont tout le temps en bonne place.
Au pire, demandez à des gens de vous taponner.
Ça aussi. Il y a tellement de bons conseils. Hein?
Non, mais tu sais, si tu t'as...
Imagine-toi si moi j'avais dit ça à Pascal. Pascal, t'as pas de moyens.
Yannick, non, c'est quoi, ça, je vais plus
ça
loin.
Jamais passé.
Elle va plus loin que ça.
C'est inacceptable.
Tu dois être habitué des taponner les seins de ta blonde.
Oui.
Sois un peu plus conscient de ce que t'as sous les mains et pas ce qui se passe dans ton corps une fois de temps en temps.
Ouais.
Tant qu'elle est taponnée.
Je pourrais donner ça comme raison.
Pour voir si c'est une raison.
Je te taponne.
Okay. Juste c'est pour être sûr. Ouais. C'est pour ton bien. ça va bien passer. C'est pour ton bien, mon amour.
Pose-moi la question, Pascal.
Quoi?
Ben, repose-moi la question.
Mais là, c'est parce que tu veux que je te pose la question comme si moi j'étais ta blonde?
Ouais, c'est ça.
Ça me fait peur un peu.
Ben ouais, mais c'est pour ton bien.
OK. Pourquoi tu me taponnes?
C'est pour ton bien.
Okay. Imagine ça, c'est pris en contact dans une autre radio.
Tout ça, c'est, ça s'en va dans promo.
Ça va faire un bon top dollar, ça, ben oui.
C'est ça que
pour
oui.
Ton
c'est
bien.
Pour ton bien. Bébé.
My God!
On fait une pause. Attends, t'en rappelles-tu, Yannick, le petit bruit?
On est parti. Salut. 3, 2, 1. Marceau.